Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Septuagésime. Lecture de l'épître de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade prennent bien tous part à la course, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez donc vous-même de manière à le gagner. Or ceux qui luttent pour le prix ont toutes sortes de privations à s'imposer, eux pour obtenir une couronne périssable, nous une couronne incorruptible. Je cours donc, moi aussi, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme donnant un coup dans le vide, mais je châtie mon corps et le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché les autres, je sois réprouvé moi-même. Je ne veux pas, en effet, frère, que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée miraculeuse, ils ont tous passé la mer rouge, ils ont tous été sous Moïse, baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car l'eau qu'ils buvaient venait de la pierre spirituelle qui les accompagnait, et cette pierre était le Christ. Ce n'est pas dans le plus grand nombre d'entre eux que Dieu s'est complu. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole: le royaume des cieux est semblable mais un père de famille qui sortit dès la première heure du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Étant donc convenu d'un denier pour la journée avec ses ouvriers, les envoya à sa vigne. Sorti de nouveau vers la troisième heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place publique à ne rien faire. Il leur dit: vous aussi allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils s'y rendirent. Il sortit encore vers la sixième heure, vers la neuvième heure et fit la même chose. Enfin, il sortit vers la onzième heure et il en trouva d'autres qui étaient là. « Pourquoi, leur dit-il, êtes-vous ici tout le jour à ne rien faire ?»« C'est, répondirent-ils, que personne ne nous a loués. » Alors il leur dit: « Allez-vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: « Appelez les ouvriers et payez-leur le salaire en allant du dernier au premier. » Ceux de la onzième heure, s'étant donc présentés, reçurent un denier chacun. Les autres, les premiers venant à leur tour, pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi un denier chacun. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père de famille, disant ces derniers que voici n'ont fait qu'une heure de travail. Et vous les avez mis sur le même pied que nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mais lui dit à l'un d'eux cette réponse. Mais lui fit à l'un d'eux cette réponse. Ami, je ne vous fais pas d'injustice. N'êtes-vous pas convenu d'un denier avec moi? Emportez donc ce qui est à vous et allez votre chemin. À ce dernier aussi, je vais donner comme à vous. Ne me serait-il pas permis de faire ce que je veux? Ou votre œil est-il mauvais parce que je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers les derniers, et beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Je vais vous asseoir. Je vais bouger un peu pour que vous ayez un peu de place. Et voici d'abord quelques annonces. L'application pour les retraites. Nous sommes toujours à 28 retraitants et la première retraite est pleine, donc je ne peux plus accepter personne pour la retraite du 24. Par contre, j'ai une ou deux places pour tous les autres retraites, donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Mercredi, cours de doctrine sur les actes du magistère à 19h comme tous les mercredis. Cette semaine, donc, tous les jours, messe à 10h et messe à 17h. J'ai mis à l'extérieur de la chapelle, sur la petite table, des bougies bénites pour la chandeleur. Donc, servez-vous, prenez ce dont vous avez besoin. Rappelez-moi, après la messe, je vous donnerai aussi, pour ceux qui n'ont pas reçu, la bénédiction spéciale de Saint Blaise. C'est le lendemain de la chandeleur, le 3, il y a une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction de Saint Blaise, un martyr. Qu'on invoque pour les maux de gorge, parce qu'il avait fait un miracle pour guérir quelqu'un qui étouffait avec une épine de poisson dans son gosier. Il a fait un miracle pour le guérir, et c'est un des saints auxiliaires compris pour obtenir justement cette grâce de la une bonne santé au niveau de la gorge, des voies respiratoires. Je vous donnerai cette bénédiction juste après la messe. Rappelez-moi que je n'oublie pas. Oui, aussi un petit détail technique. J'ai eu un petit accident de voiture qui n'est pas très grave. J'ai un peu de la carrosserie abîmée. Bon. Je vais essayer d'avoir une voiture de près du garage qui me réparait la voiture. Si j'y arrive pas, qu'ils n'ont pas de voiture à me prêter, je vais voir si quelqu'un a une idée pour où je puisse trouver une petite voiture. J'annulerai à ce moment-là toutes les grosses sorties pendant le temps de réparation de la voiture pour que je puisse trouver une petite voiture pendant ce temps-là pour ne pas rester sans voiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici au temps de la Septuagésime. Je vous ai dit que pour savoir quels étaient les points importants de la doctrine, il y a une règle toute simple. Regardez les points de doctrine qui ont été détruits par l'Église moderne. Le temps de la Septuagésime n'a pas été raccourci dans l'Église moderne, mais purement et simplement complètement supprimé. Il n'y a plus de Septuagésime dans l'Église moderne. Tout sauté, tout fait sauter. Septuagésime, sexagésime, quinquagésime, il n'y a plus ça. Septuagésime, 70 jours avant Pâques. Bon, c'est un chiffre symbolique. Dimanche prochain, sexagésime, 60 jours avant Pâques. Donc, Septuagésime, oh, je dis pas bon, 70 jours avant Pâques. Dimanche prochain, sexagésime, 60 jours avant Pâques. Puis, quinquagésime, 50 jours avant Pâques. Puis, le mercredi des cendres et les dimanches de carême et de la passion. Alors c'est un temps un peu intermédiaire, un temps un peu hybride, où on fête à la fois, on garde encore la joie de Noël, c'est pour ça qu'il y a encore les fleurs sur l'autel, symbole de joie. Mais en même temps, il y a déjà des symboles de la pénitence qui sont là. C'est pour ça qu'il y a les vêtements violets, symbole de la pénitence. C'est pour ça que l'Alléluia saute, plus d'Alléluia pendant la Septuagésime jusqu'à Pâques. Justement pour essayer de nous faire passer de ce temps de joie qui est le temps de la naissance du Christ, jusqu'à ce temps de pénitence qui est le temps de carême. C'est un temps historiquement et liturgiquement très, très important. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien dans les textes liturgiques comment l'Église va associer à la pénitence la joie, donc à la justice de Dieu la miséricorde. Donc, pénitence est associée à la justice et la joie associée à la miséricorde. Et donc, il faut pas oublier ces choses-là. On ne peut pas séparer la miséricorde et la justice de Dieu. Je vous l'ai dit bien souvent que les deux choses travaillent ensemble. Dieu est à la fois un Dieu juste et à la fois un Dieu plein de miséricorde. Dieu est à la fois un Dieu plein de miséricorde, mais en même temps juste. S'il était juste sans être miséricordieux, il serait imparfait, donc pas Dieu. S'il était miséricordieux sans être juste, il serait aussi imparfait, donc il ne serait pas Dieu. Et donc c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a deux dangers qui nous guettent tous. La présomption et le découragement. La présomption, c'est croire beaucoup trop en nos propres forces. Découragement, ne pas croire assez en la puissance de la grâce du bon Dieu. Donc il faut associer à la puissance de la grâce du bon Dieu le respect de notre libre arbitre, un des plus grands mystères de la foi catholique. Et donc, pour lutter contre la présomption qui vient de l'orgueil, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la justice de Dieu qui nous rappelle nos limites. Et au contraire, pour lutter contre le découragement, il y a la miséricorde de Dieu. Pour que nous nous rappeler que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Et on le voit dans les deux textes de l'Épître, aujourd'hui aux Corinthiens et l'Évangile selon saint Matthieu, on voit très bien cette association de la justice et de la miséricorde. Commençons par la justice. Il y a d'abord ce texte très connu, très fort, de la fin de l'Évangile. « Beaucoup sont appelés, peu sont élus. » Évidemment, notre Seigneur fait allusion à ce texte fondamental que vous connaissez bien, large est la voie qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui la prennent. Et au contraire, étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie éternelle. Et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. L'Église a toujours enseigné ce petit nombre relatif des élus. Ça veut dire quoi ? C'est une vérité qui n'est pas facile à accepter. L'Église enseigne, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois, plus nombreux sont ceux qui suivent la voie facile qui mène à la perdition que ceux qui suivent la voie difficile et resserrée qui mène à la vie éternelle. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est un fait. Cependant, le nombre d'élus est extraordinairement grand. C'est ça qu'on appelle le nombre relatif des élus. Alors il faut pas oublier ces choses-là. Alors lorsque nous sommes dans un régime politique qui suit la loi divine, avec l'union de l'Église et de l'État, avec le respect du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il est relativement facile pour les citoyens de ce pays de sauver leur âme. On voit très bien, par exemple, au Moyen-Âge chrétien, la chrétienté était tellement influente que, d'après de nombreux docteurs de l'Église, la plupart des gens se sauvaient. C'est sans doute vrai. Mais au contraire, lorsqu'on vit sous un régime de séparation d'Église et d'État, surtout quand on vit comme en France dans un régime laïque, donc anti-chrétien dans son essence même, il ne faut pas oublier que la révolution de 1789 est dans sa nature même anti-chrétienne, il est évident qu'il est beaucoup plus difficile pour les gens de sauver leur âme. Parce que pour sauver son âme, il faut pouvoir se mouvoir dans le bien. Et il est beaucoup plus difficile de se mouvoir dans le bien quand vous avez comme supérieur Macron que quand vous avez comme supérieur Saint-Louis, c'est pas la même chose. Vous voyez, ce sont des choses très importantes à comprendre. Deuxième allusion à la justice de Dieu. Avec beaucoup, Dieu ne fut pas satisfait. Parole très forte de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul aux Corinthiens fait des rappels de l'Ancien Testament. Il y a eu plus de 600 000 personnes qui ont quitté l'Égypte, où les Égyptiens maintenaient les peuples hébreux en esclavage. Et Dieu les a fait pèleriner dans le désert pendant 40 ans, parce qu'ils se révoltaient tout le temps. Au lieu de remercier le bon Dieu de tous les miracles extraordinaires qu'il avait fait pour ce peuple, à commencer par la traversée miraculeuse de la mer Rouge, a fait sortir l'eau en plein désert en frappant sur la pierre, ils se révoltaient tout le temps. Et donc Dieu les a purifiés et les a promenés dans le désert pendant 40 ans. Et les 600 000 personnes qui sont sorties du peuple de l'Égypte, il n'y en a que deux sur ces 600 000 qui vont atteindre la terre promise. Josué et Caleb. Même Moïse, pourtant très grand saint, même Moïse ne va voir la terre promise de loin, mais ne va pas pouvoir y pénétrer. Et les pères de l'Église, justement, utilisent cet exemple pour nous rappeler, encore une fois, la doctrine du petit nombre relatif des élus. L'Église ne dit pas, attention, que tous ceux qui sont morts dans le désert sont en enfer. L'Église n'enseigne pas ça. Mais dans la pratique, malheureusement, les gens étant plus tentés vers le mal, vers les choses mondaines, eh bien, il devient de plus en plus difficile de sauver son âme. Deuxième exemple qu'on donne tout le temps, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, notre Dieu qui châtie le peuple humain. Châtie le peuple humain avec le déluge. Et dans la barque, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'arche de Noé, il y a Noé, son épouse, et il y a trois fils, Sem, Cam et Japhet, leurs épouses. 8 personnes. Encore une fois, l'Église ne dit pas que tous ceux qui sont morts noyés vont en enfer, pas du tout. Parce qu'ils espéront qu'un certain nombre d'entre eux, en voyant les eaux monter, ont commencé à comprendre que c'était un châtiment du bon Dieu, qu'ils ont demandé pardon au bon Dieu, et qu'ils ont pu sauver leur âme. Vous voyez? Et la troisième allusion à la justice du bon Dieu, c'est dans la collecte d'aujourd'hui, qui dit que nous sommes justement affligés pour nos péchés. Lorsque les gens disent, monsieur l'abbé, pourquoi nous arrive toute cette huile? Plan familial, sur plan professionnel, sur plan de la santé, pourquoi nous arrive-t-il toute cette huile? Réponse, parce que j'ai offensé Dieu. La mort est une conséquence du péché. Les souffrances sont une conséquence du péché. Un genou qui ne fonctionne plus, qui se casse, conséquence du péché. Avant le péché originel, Adam et Ève ne souffraient pas. Vous voyez, c'est l'homme qui, par sa désobéissance, a introduit dans la vie du monde, dans le monde d'aujourd'hui, le péché. Et toutes les conséquences du péché, à commencer par la mort. Vous voyez, donc, on voit très bien, justement, que l'Église insiste donc sur la justice de ce côté-là. De Dieu, on ne se moque pas. De Dieu, on ne se moque pas. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. On ne sauve pas son âme en carrosse, on sauve son âme en prenant la croix, en se renonçant à soi-même pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, justement, parce que je vous ai expliqué ce dimanche de la Septuagésime associé à la justice de la miséricorde, il y a l'évangile d'aujourd'hui. Alors là, éclate la miséricorde de bon Dieu par cette parabole magnifique. Cet homme qui a une vigne et qui loue, qui embauche les ouvriers à sa vigne. Et donc, à l'époque, à cause du soleil, on embauchait très tôt, ils embauchaient à 6h du matin. Et la journée de travail, c'était 6h du matin, 6h du soir, tout ça. Et donc, ils commencent par embaucher les ouvriers à la première heure, puis à la troisième heure, à la sixième heure, etc. Et il envoie ses représentants pour embaucher les gens qui sont oisifs, qui n'ont pas de travail. Et il va embaucher les gens jusqu'à la 11e heure. 11e heure, c'est 5h de l'après-midi. Il a promis au premier, voilà, si vous travaillez toute la journée dans ma vigne, subissant le poids de la chaleur et du travail pendant 12 heures, ben vous serez payé un denier. Et les derniers qui arrivent, ils arrivent à 5h de l'après-midi, la fumée des cierges, comme on dit, eh bien, ils vont recevoir la même récompense. Il y a un message extraordinaire derrière, la miséricorde du bon Dieu. Le bon Dieu nous dit quoi? Il nous dit, voilà, même si vous arrivez à la fumée des cierges, tout à fait à la fin, même si vous avez oublié de faire pénitence, oublié de prier, peut-être lâcher le bon Dieu pendant des années et des années, même si c'est à la dernière limite, à 5h de l'après-midi, si vous revenez vers moi, le cœur contrit, je vous pardonnerai tous vos péchés. Et vous pourrez retrouver mon amitié. Et vous recevrez la même récompense que ceux qui ont toujours été fidèles depuis le début. C'est pour cela que les derniers recevront la même récompense que les premiers. Les derniers, c'est-à-dire ceux qui ont été embauchés à 5h de l'après-midi, vont recevoir la même récompense que ceux qui ont été embauchés à 6h du matin. Quand on a compris ça, mes bien chers frères, ça nous a donné une joie extraordinaire. Parce que peut-être que moi aussi, moi je suis arrivé à fumer des cierges, j'arrive à 5h, bon, tout le monde travaille, et puis j'ose à peine me présenter, voilà, est-ce qu'il y a encore un peu de travail? Ah oui, venez, il y a du travail. Alors on se met à la suite de la croix de notre Seigneur. Alors il y a ceux qui ont suivi la croix de notre Seigneur et qui l'ont accepté sur leurs épaules des 6h du matin, puis il y a ceux qui arrivent au bout. Et regardez les exemples foisonnants dans l'Évangile et dans la vie des saints. L'exemple typique, c'est Saint Dismas, le bon larron. Hein, c'est difficile d'arriver plus à la fumée des cierges que celui-là, juste avant de mourir. À l'instant, il est déjà sur la croix, déjà crucifié, à moitié mort. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans mon royaume. Il fait un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité, et Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et des exemples comme ça, ils foisonnent dans la vie des saints. Le bon Dieu est plein de miséricorde. Qu'est-ce qu'il demande? Le regret de ses péchés. Mais il demande le regret. Quelqu'un qui veut se confesser, qui ne regrette pas ses péchés, eh bien, ne peut rien faire. Et on le voit aujourd'hui, moi je vois à quel point la miséricorde du bon Dieu s'exerce. On parle beaucoup, de l'apostasie de la France. Et peut-être qu'on oublie un peu trop ces miracles de la grâce. Miracle de la grâce. Je vais vous donner un exemple. Je pense qu'ils ne me voudront pas de vous en parler. Je ne vous donne pas les noms, bien sûr. Il y a quelque temps, je disais une messe à Andorre. Et puis, il y avait des gens que je ne connaissais pas qui sont venus à la messe, deux jeunes. Bon. Et ils viennent me demander la confession. Quand je me doutais un petit peu qu'il y avait peut-être un problème, donc avant de les confesser, j'aurais dit, écoutez, j'ai pris à part. Et je leur ai dit, écoutez, je veux bien vous confesser, bien sûr. Est-ce que vous êtes marié religieusement? Ils disent, non, on n'est pas marié religieusement. On vit à la colle, comme on dit. Et j'aurais dit, écoutez, je ne peux pas vous confesser actuellement. Ce n'est pas possible, je n'ai pas le droit. Parce que vous vivez dans le péché. Mais je vais prier pour vous et je vais vous aider à régulariser votre situation, si c'est régularisable. Je les ai encouragés, je n'ai pas pu les confesser ce jour-là, j'ai prié pour eux à chaque messe. Et puis... certain temps après, coup de téléphone. Voilà, monsieur l'abbé, on a décidé de régulariser notre situation. Est-ce que vous pouvez nous aider à régulariser notre situation? On va mettre le bon Dieu dans notre vie. Et en descendant d'Andorre, je me suis arrêté chez eux, parce qu'ils habitent sur la route, et j'ai commencé à préparer le mariage. J'ai commencé à préparer, à faire les enquêtes matrimoniales pour être sûr qu'il n'y ait pas d'inconvénients. Ils vont se marier bientôt. Je pense qu'ils se marieront le 1er mai. Vous voyez, c'est grâce extraordinaire du bon Dieu. Pourquoi est-ce que le bon Dieu va chercher telle et telle personne? Je vais se poser cette question. Pourquoi est-ce que le bon Dieu est venu me chercher, moi? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas laissés dans la mouise du péché, comme malheureusement avec l'immense majorité des gens? Imaginez que le bon Dieu fasse ça avec M. Macron. Qu'il y ait une conversion. Tout est possible, la grâce du bon Dieu. Mais il faut répondre. N'oubliez pas que l'ouvrier de la dernière heure est payé comme l'ouvrier de la première heure. Mais l'ouvrier de la dernière heure, il n'est pas arrivé à 6h moins 5. Hein. Il est arrivé à 5h de l'après-midi, 17h. Parce qu'il y a quand même un minimum du minimum qu'il faut faire pour suivre notre Seigneur Jésus. Quel est ce minimum? Regretter ses péchés, accuser ses péchés et réparer autant que faire se peut. C'est la matière du sacrement de pénitence. Ils ont porté le poids du jour, ils ont travaillé dur, une heure, c'est tout. Mais ils ont travaillé une heure. Si quelqu'un est arrivé à 6h, il dit, voilà, moi j'ai rien fait toute la journée, j'ai pas travaillé, j'ai rien fait, aucune pénitence, alors je voudrais avoir le denier comme tout le monde, et moi aussi aller au paradis. Dieu dira non, je ne vous connais pas. Rappelez-vous l'évangile des vierges folles, des vierges sages. Les vierges folles qui avaient oublié de prendre de l'huile pour alimenter leur lampe, elles arrivent au milieu de la nuit et elles ont raté l'arrivée de l'époux. L'époux est rentré avec les vierges sages. Elles tambourinent à la porte, Seigneur, c'est nous. Qu'est-ce que répond notre Seigneur? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous voyez? Donc il faut pas se moquer du bon Dieu. Vous voyez, on voit très bien. Dans le texte de Saint Paul aussi, on voit, dans l'Évangile, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde pour le pécheur repentant, mais il exige un minimum. Il exige cette contrition des péchés, c'est-à-dire cette douleur, avec ce ferme propos de ne pas recommencer, sinon on ne peut pas pardonner les péchés. C'est pour ça que Saint Paul insiste qu'il faut courir comme pour remporter le fruit. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut se mettre au travail. C'est l'explication, si vous voulez, de cette phrase qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens. Courez de manière à remporter le prix. Il faut mettre la croix sur ses épaules et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul répète, je châtie mon corps et je le réduis en servitude. Ça veut dire quoi, ça? Châtier mon corps, c'est pénitence. Réduire en servitude, c'est-à-dire... être maître des trois concupiscences, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, l'orgueil. Donc je réduis, je me mets à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, je me bats contre les tentations qui peuvent arriver, qui arriveront certainement pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur l'a dit, celui qui veut venir après moi, qui se renonce, qui prenne sa croix, qui me suive. Le grand mensonge, c'est de faire croire qu'on peut suivre notre Seigneur Jésus-Christ sans renoncer au péché. Qu'on peut suivre notre Seigneur Jésus-Christ sans renoncer à l'Esprit du monde. Ça, c'est l'Église de Vatican II qui enseigne ça tout le temps. Vous n'avez pas besoin de changer, Dieu vous aime. Alors, si je n'ai pas besoin de changer, bon, à quoi sert la confession? À quoi sert la messe? À quoi servent tous les sacrements? Et pour ça, il faut bien comprendre ces choses-là, mais bien chaque fois, et remercier le bon Dieu si vous avez vu, vous et moi aussi, nous avons reçu cette grâce de la conversion. En nous posant toujours cette question, pourquoi est-ce que j'ai reçu cette grâce alors que je ne la mérite pas plus qu'un autre? Pourquoi d'autres personnes à côté de moi vont passer peut-être leur vie sans recevoir cette grâce que moi j'ai reçue? Pourquoi est-ce que je l'ai reçue, pas eux? Regardez au pied de la croix. À droite et à gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux larrons. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. À droite, il y a Saint Dismas et à l'autre, il y a Gestas, l'autre côté. Saint Dismas reçoit la grâce de la conversion et monte au ciel droit après sa mort. Et Gestas, hélas, ne se convertit pas. Pourtant, ils étaient aussi mauvais l'un que l'autre. C'était des compagnons de rapine, nous avons fait de toutes les couleurs tous les deux. Pourquoi l'un ne se convertit pas l'autre? On a même des gens qui vont jusqu'à dire, c'est injuste, Dieu est injuste, quel blasphème. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu aurait pu dire, tous les deux en enfer, vous ne les pas voulez. Non. La Sainte Vierge est intervenue pour l'un d'entre eux. Pourquoi la Sainte Vierge n'est pas intervenue pour l'autre? Ça, c'est le mystère de Dieu. Pourquoi la Sainte Vierge Marie n'intervient pas pour tous les hommes de la dot qui ont été créés par Dieu? Pourquoi la Sainte Vierge Marie ne fait-elle pas un miracle à chaque fois pour obtenir la conversion du monde entier? Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Il ne faut pas oublier ça, mes chers frères. Le paradis appartient aux violents, et ce sont les violents qui l'emporteront, me dit notre Seigneur. Alors passons par notre Sainte Vierge Marie. N'oublions pas qu'elle est celle qui est l'intermédiaire de toutes les grâces. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Et Dieu sait s'il faut rappeler ces grandes vérités aujourd'hui. Vous savez qu'à Rome, Celui qui a autorité là-bas a nié ces deux choses expressément. Il l'a dit expressément. La très sainte Vierge Marie, il a dit Marie, pas la très sainte Vierge Marie, n'est pas co-rédemptrice. La très sainte Vierge Marie n'est pas, Marie n'est pas médiatrice. Elle est médiatrice. Elle est co-rédemptrice. Parce que Dieu a voulu venir au monde par elle. C'est elle qui a donné l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au moment de sa mort, juste avant de mourir, la dernière chose qu'il fait, c'est confier son Église à sa mère. Femme, voici votre fils. Fils, voici votre mère. La très sainte Vierge Marie est donc celle qui s'occupe d'une façon toute particulière de nous. Priez votre chapelet tous les jours. Trouvez le moyen de dire votre chapelet tous les jours. Il faut vous organiser de telle façon que dans les familles, ce chapelet soit dit tous les jours. Et je vous assure, le chapelet dit tous les jours est comme un talisman de sécurité. C'est Alain de la Roche, le bienheureux Alain de la Roche, compagnon de Saint-Dominique, qui avait fait la prophétie que tous ceux qui disent le chapelet tous les jours seraient sauvés, je veux bien le croire. Donc ne nous décourageons jamais, bien chers frères, surtout quand on voit l'état du monde moderne, quand on voit toutes ces horreurs qu'on entend à droite et à gauche, quand on voit toutes ces abominations, ces familles détruites, tous ces parents qui laissent leurs enfants être happés, mangés tout cru par le démon sans rien faire pour les protéger. On aurait le droit de se décourager. C'est là qu'il faut se mettre au pied de la croix, regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que vous venez à la Sainte Messe ici le dimanche, et bien vous regardez notre Seigneur Jésus-Christ, vous remplissez du bon Dieu, après vous êtes confessé si nécessaire, après avoir communié, vous remplissez du bon Dieu pour arriver à tenir le coup pendant toute la semaine. Et littéralement, en comptant les heures qui vous séparent du jour où vous pourrez revenir, pour de nouveau vous remplir de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, il est infini. Ses grâces de miséricorde sont infinies. Et Dieu ne va pas limiter ses grâces. Donc on peut communier tous les jours, on peut demander des grâces tous les jours. Il ne faut pas dire les grâces vont être épuisées. Non, les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ sont inépuisables. À condition que je mette ma vie en ordre par rapport à sa loi. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.